Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce mercredi 12 mai.
Covid-19, le gouvernement planche sur les mesures barrières à appliquer dès juillet. Moon Jae-in face au casse-tête de la nomination officielle de trois nouveaux ministres. Les patrons du renseignement sud-coréen, américain et japonais se sont rencontrés aujourd'hui à Tokyo. Enfin, Moody's maintient la note AA2 de la Corée du Sud.
On débute avec la crise sanitaire. En l'espace de 24 heures, la Corée du Sud a identifié 635 nouveaux cas de Covid. Le vice-premier ministre à l'économie Hong Nam-gi, qui assure actuellement l'intérim du chef du gouvernement, a affirmé que les chiffres de l'épidémie poursuivaient leur tendance baissière et que le taux de reproduction reculait pour la quatrième semaine consécutive. Un bémol cependant, les variants continuent de se propager et le nombre de patients dont l'origine de la contamination reste inconnu représente désormais 35% de l'ensemble. La vigilance doit donc rester de mise. Du Courant a exprimé sa préoccupation à l'égard du rebond des infections, cette fois sur l'île méridionale de Jeju. L'exécutif envisage un allègement de certaines restrictions actuellement en vigueur. Si le bilan quotidien de cas supplémentaires se maintient sous la barre des 500, dans le même temps, il se penche sur les nouvelles mesures de distanciation sociale à mettre en place dès juillet.
Les livraisons de vaccins anti-Covid à la Corée du Sud s'enchaînent. Aujourd'hui, 438 000 doses supplémentaires du produit de Pfizer sont arrivées. Ce nouveau lot fait partie des 66 millions de doses commandées directement par le gouvernement au laboratoire américain. Avec ses flacons, celui-ci en a expédié 2 874 000 au pays du matin clair. En vertu du contrat bilatéral, la firme doit y livrer un total de 7 millions de doses avant fin juin. 4 126 000 doses supplémentaires sont donc attendues d'ici là. Pour l'heure, le sérum Pfizer est administré aux plus de 75 ans, ainsi qu'aux pensionnaires et employés des établissements pour personnes âgées. En ce qui concerne le vaccin AstraZeneca, un total de 7 230 000 doses arriveront progressivement dès vendredi. Sachez que jusqu'à présent, l'exécutif s'est assuré de disposer de suffisamment de doses pour pouvoir inoculer 99 millions de personnes. Le pays compte un peu plus de 50 millions d'habitants.
Après les personnes âgées de 65 à 74 ans, c'est au tour des 60-64 ans d'être invités à s'inscrire à la vaccination. Dès demain, les 4 300 000 individus concernés pourront prendre rendez-vous sur Internet, par téléphone ou en se rendant en personne dans la mairie, et c'est jusqu'au 13 juin. Il est possible de choisir la date et le lieu de la première injection. Le sérum administré sera celui d'AstraZeneca. Le gouvernement les appelle une nouvelle fois à se faire vacciner en évoquant le fait que la proportion de victimes de formes graves du coronavirus et le taux de létalité sont plus élevés chez les plus de 60 ans que dans les tranches d'âge inférieures. L'inoculation se fera progressivement entre le 7 et le 9 juin dans les hôpitaux, les cliniques et les centres dédiés répartis dans tout le pays.
Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
En politique intérieure, la question des trois ministres désignés dont la confirmation parlementaire reste bloquée devient épineuse. Après les députés du Parti du pouvoir du peuple, la principale force de l'opposition, certains de ses collègues du Minju au pouvoir évoquent eux aussi la nécessité de lâcher du lest sur au moins l'un des trois candidats. Ceux-ci ont été proposés le mois dernier par Moon Jae-in pour diriger respectivement les ministères des sciences, des affaires maritimes et de l'aménagement du territoire. Pas moins de 40 jeunes élus de la formation présidentielle réunis aujourd'hui ont en effet demandé à leur direction de faire à la Changwade une recommandation allant dans ce sens, sans pour autant nommer celui qui doit être sacrifié pour respecter le droit du décideur, en l'occurrence le président de la République. Pour rappel, l'Assemblée nationale devrait communiquer à celui-ci un rapport faisant état de ses avis sur les trois ministres choisis jusqu'à lundi dernier, mais cela n'a pas été le cas en raison du refus du PPP. qui pointe du doigt leur manquement à l'éthique et cherche aussi à lier ce dossier à celui du vote pour la confirmation du nouveau Premier ministre désigné. Du coup, hier, le chef de l'État a sollicité l'envoi du rapport en question jusqu'à ce vendredi. C'est dans ce contexte que les jeunes députés de son propre parti ont fait état du désistement de l'un des trois candidats.
Direction maintenant Tokyo, où les directeurs du renseignement sud-coréen, américain et japonais se sont entretenus aujourd'hui. La politique nord-coréenne de l'administration Biden, l'association dans la péninsule coréenne, en Asie du Nord-Est et dans le reste du monde ont été au cœur de leurs discussions. Selon le Japan News Network et Good News, en amont de ce rendez-vous à trois, le sud-coréen Park Ji-won et son homologue nippon Hiroaki Takizawa se sont rencontrés hier. Les deux hommes auraient échangé notamment sur la situation en Corée du Nord. En croire une source locale, Park sera également reçu aujourd'hui par le Premier ministre Yoshihide Suga et pourrait aussi retrouver Toshihiro Nikai, numéro 2 du PLD, le parti au pouvoir de l'archipel. Après la réunion trilatérale à Tokyo, l'américaine Avril Haines est arrivée aujourd'hui à Séoul. Cette première femme à la tête de 18 agences de renseignement américains, dont la CIA, serait reçue notamment par le président Moon Jae-in et son conseiller à la sécurité nationale, Sohun. Elle pourrait aussi visiter la DMZ, la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées.
Économie à présent. En Corée du Sud, le nombre de travailleurs a progressé de 652 000 en avril sur un an, soit le niveau le plus élevé depuis août 2014. Il s'élève ainsi à près de 27,2 millions. Selon les données de l'Institut national des statistiques, le chiffre s'est accru pour le deuxième mois de suite. Après avoir reculé pendant 12 mois depuis mars 2020, le taux d'emploi chez les plus de 15 ans s'est établi à 60,4%, soit une hausse d'un point. Celui pour la population en âge de travailler, c'est-à-dire les 15 à 64 ans, a augmenté de 1,1 point pour atteindre 66,2%. Quant au nombre de chômeurs, il était de 1,1 million, enregistrant une baisse de 25 000. Le taux de chômage a régressé de 0,2 point pour se chiffrer à 4%. Toujours d'après le COSTAT, cette embellie est attribuable à l'effet de base lié à la chute importante du nombre de travailleurs l'an dernier, ainsi qu'à l'amélioration des indices de l'économie dans la consommation, la production et les exportations.
Économie toujours. Après Standard & Poor's, c'est Moody's qui maintient cette fois la note de la Corée du Sud à AA2, la troisième plus élevée sur l'échelle de 21, ainsi que sa perspective stable. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère sud-coréen de l'économie et des finances. En comparaison avec les autres pays d'Asie, l'Agence internationale de notation financière accorde la deuxième meilleure note au pays du matin clair après Singapour. Selon le ministère, Moody's aurait pris sa nouvelle décision en prenant en compte les fondamentaux solides de l'économie sud-coréenne. De fait, l'agence a indiqué que si en 2002 le PIB réel du pays s'était contracté d'1%, il s'agit néanmoins d'un résultat meilleur que celui enregistré dans la plupart des nations industrialisées ayant une note similaire. Il prévoit que cette année, la Corée du Sud devra enregistrer une croissance de 3,5%, dopée par ses exportations et sa politique budgétaire expansionniste. L'agence met en garde toutefois contre les défis à relever, comme la hausse de la dette publique, le vieillissement de la population et le risque lié à la Corée du Nord.
Au chapitre justice, l'ex-PDG du groupe Gumroo est dans la tourmente. Park Sam-gu s'est présenté aujourd'hui devant un tribunal de Séoul qu'il a auditionné avant de décider d'accepter ou non la demande de mandat d'arrêt à son encontre déposée par le parquet. Le ministère public a ouvert ses enquêtes sur l'ancien patron du premier actionnaire de la compagnie aérienne Asiana Airlines après un dépôt de plainte en août dernier par la FTC. Cette autorité sud-coréenne de la concurrence le soupçonnait notamment de transactions internes jugées déloyales entre le conglomérat et ses filiales lorsqu'il était à la tête du groupe, ce qui lui aurait permis de détourner des biens sociaux. C'était en 2015. Le parquet a perquisitionné en novembre dernier le siège du Chaebol et en avril, il a interrogé Park sous le statut de prévenu.
L'administration de Joe Biden est ouverte à l'idée de fournir à la Corée du Nord des vaccins anti-Covid et d'autres aides humanitaires pour l'aider à lutter contre l'épidémie. C'est ce que rapportait hier CNN. La chaîne de télévision américaine alors citait deux sources bien informées des discussions internes. Un haut responsable du gouvernement américain a confirmé l'information, affirmant que, je cite, « nous sommes disposés à étudier la demande d'aide humanitaire aux pays communistes ». Fin de citation. Il a toutefois posé une condition, cette éventuelle assistance devra être accompagnée d'une surveillance efficace pour s'assurer qu'elle s'adresse bel et bien aux destinataires voulus, en l'occurrence aux habitants nord-coréens. L'officiel a ajouté que pour le moment, les États-Unis n'envisageaient cependant pas de partager les vaccins avec le régime de Kim Jong-un. Il a alors tenu à rappeler que celui-ci avait refusé de coopérer avec le dispositif international COVAX Facility et la proposition sud-coréenne de l'aider à combattre le coronavirus.
C'est la fin de ce journal présenté par Yoon Hae-jung et Thierry Laplanche. Merci de votre fidélité et belle soirée sur nos ondes.